VOA Afrique, les infos à Washington.
John Linden à la présentation. Bonsoir à tous. Le polémiste français d'origine béninoise Kémi Séba, 35 ans, qui avait brûlé publiquement le mois dernier un billet de 5000 francs CFA pour protester contre la France-Afrique, a fait l'objet mercredi d'une décision d'expulsion immédiate du Sénégal pour la France. Les autorités sénégalaises évoquent une menace grave à l'ordre public. L'un de ses avocats, Maître Kourassi Ba, a dénoncé une expulsion illégale et annoncé un recours suspensif, selon lui, de la mesure d'expulsion. Trois militants de l'opposition pro-Jinping ont été écroués au Gabon, où plusieurs autres étaient toujours entendus par la police. Trois personnes ont été incarcérées pour atteinte à l'ordre et à la tranquillité publique, a indiqué le procureur de la République, Steve Ndong et Sam Ndong. Ces militants pro-Jinping, le rival du président Ali Bongo à la dernière présidentielle, ont été interpellés samedi alors qu'ils distribuaient des tracts annonçant une réunion publique dans un collège privé. Leur procès se tiendra le 18 septembre, selon leur avocat, Maître Eric Iga-Iga. Au Kenya, la commission électorale indépendante annonce des changements parmi ses hauts responsables, une récomposition décriée par le camp du président sortant, Uhuru Kenyatta. Une autre attaque contre un village de l'extrême nord du Cameroun a fait 3 morts dans la nuit d'hier. 6 personnes ont été également enlevées et 46 maisons incendiées. L'attaque s'est produite à 192 km de Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord. Le point avec notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Juntap.
Aux environs de 23 heures, affirme une source contactée par VOA et ayant requis l'anonymat, les assaillants de Boko Haram ont fait irruption dans le village Diaba, en treillis de l'armée camerounaise. Une fois au village Diaba, les éléments de Boko Haram qui feignaient une patrouille de l'armée camerounaise se sont transformés en meurtriers et pyromanes. En mi-journée, des sources affirmaient que l'attaque a fait 3 morts, 6 personnes ont été enlevées, 46 maisons incendiées, parmi lesquelles une chapelle de l'Union des Églises évangéliques du Cameroun. Un employé d'une agence de coopération internationale que nous avons joint depuis COSA témoigne qu'un climat d'insécurité règne dans cette localité frontalière au village Diaba où l'attaque a eu lieu. C'est ainsi que les militaires camerounais ont repoussé hier dans la nuit à COSA quelques assaillants de Boko Haram venus d'une montagne qui sépare le Cameroun du Nigeria. Emmanuel Juntap, Yaoundé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Donald Trump s'est mis d'accord avec les chefs de l'opposition démocrate au Congrès pour relever le plafond de la dette américaine jusqu'au 15 décembre, désavouant ses partenaires de la majorité républicaine qui voulaient d'autres paramètres. L'accord a été annoncé par les deux chefs démocrates de la Chambre des représentants et du Sénat à l'issue d'une réunion avec le président américain à la Maison-Blanche, en compagnie des deux leaders de la majorité républicaine. L'ouragan Irma, d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique, a frappé ce matin l'île de Barbuda et s'approchait de l'île française Saint-Barthélemy et de la franco-néerlandaise Saint-Martin, placée en alerte. La tempête se dirige vers les États-Unis. Saloua Jafari.
L'ouragan de la taille du Nigeria est impressionnant. L'œil du cyclone est passé sur l'île des Caraïbes vers 6h GMT, accompagné de vents atteignant 295 km/h. Irma est de catégorie 5, soit le maximum sur l'échelle d'intensité des ouragans. Il se déplace à la vitesse de 24 km/h. Une houle avec des creux dépassant 12 mètres et un déferlement d'une extrême violence sur les rivages, des précipitations diluviennes. Plusieurs petites îles des Caraïbes orientales étaient les premières sur son passage, dont la Guadeloupe, les îles Turques et Caïcos et le sud-est des Bahamas. L'ouragan continue sa montée.
It's very important that everybody in our state gets prepared. 3 days of water per person, 3 days of food.
Dans les supermarchés, c'est la panique générale. La population s'approvisionne en eau, nourriture et piles. Des centaines de personnes ont refusé d'évacuer. Le président américain Donald Trump a déclaré les îles Vierges, Puerto Rico et la Floride en état d'alerte.
C'est la fin de ce bulletin d'information présenté par John Linden. Merci d'avoir suivi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Welcome to Business English. Bienvenue à notre émission consacrée à l'anglais commercial aux États-Unis. Dans ce programme, vous participerez à des voyages d'affaires, à des conversations téléphoniques, à l'échange de messages e-mail et à des interviews. Au micro, Michel Joseph. Deux questions d'étiquette dans le milieu des affaires. Première question, les Américains dans les milieux d'affaires utilisent-ils leur prénom ou leur nom de famille?
Do Americans usually use their first name or last name in business?
First name, c'est le prénom. My first name is Michelle. Last name, nom de famille. My last name is Joseph. What is your first name? Quel est votre prénom? À vous de me répondre. What is your first name? What is your last name? Quel est votre nom de famille? Répondez-moi. What is your last name? Comme vous allez entendre, pour Gary, c'est une question difficile.
This is a difficult question. To be safe, use the name that the other person gives you.
This is a difficult question. C'est une question difficile. To be safe, use the name that the other person gives you. Pour être sûr de ne pas faire une gaffe, to be safe, donnez-lui le nom qu'il ou elle se donne, le prénom ou le nom de famille. Gary dit, quand il se présente, Please, call me Gary. Veuillez m'appeler Gary. Please, call me Gary. C'est ainsi que vous donnez la permission à l'autre personne de vous appeler d'une certaine façon. Écoutons la conversation qui suit à propos de la première question.
Hi, Elizabeth.
Hello, Gary. Our listeners have sent in some email questions, Gary. Our first question is, do Americans usually use their first name or last name in business?
Well, this is a difficult question. To be safe, use the name that the other person gives you. I always say, please call me Gary.
Gary dit, I always say, je dis toujours, always. I always say, please call me Gary. Littéralement, s'il vous plaît, s'il te plaît, appelle-moi Gary. Appelle-moi Gary. Please call me Miss Joseph. Please call me Mrs. Joseph. Ce qui nous amène à la prochaine question d'étiquette. Elizabeth demande à Gary, When speaking with women in business, quand on parle à des femmes dans un contexte d'affaires ou professionnel,
When speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms?
When should we use, quand doit-on se servir de? When should we use Miss, Mrs. or Ms? Miss, mademoiselle, ou comme le dit Gary, for single women, pour les femmes célibataires. Single women, les femmes célibataires, miss. Ou bien, Mrs., madame, for married women, pour les femmes mariées, for married women.
Well, miss is for single women, Mrs. is for married women.
Ou encore, Ms., un mot nouveau qui est neutre et n'implique pas le statut de célibataire ou de marié à la femme en question.
Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married.
Écoutez la conversation qui suit.
Our next question is, when speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms?
Well, Miss is for single women, Mrs. is for married women. Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married. I always use Ms. because with Ms. I usually don't offend people.
What do most American women in business prefer?
I believe that most American women prefer Ms.
Thank you, Gary.
Finissez la phrase. Vous allez entendre le début et vous devez terminer la phrase. Écoutez et finissez la phrase.
Some people use their first name in business, but others prefer to use their last name.
Le nom de famille.
They prefer to use their last name.
Le nom de famille.
Most American women prefer to be addressed as Ms. They prefer to be addressed as Ms.
Ms, c'est neutre.
In the past, people used to address all married women as Mrs.
Et c'est tout pour cette leçon de Business English, l'anglais commercial. That's it for today. Until next time, à la prochaine fois. English USA vous présente African Voices in Conversation. Des conversations en anglais qui ont attrait à la vie quotidienne au Sénégal. Bala est le tailleur le plus populaire de son quartier. Aujourd'hui, sa cliente et cousine, Rama, lui rend visite. Nous allons écouter cet entretien plutôt tendu. Vous répondrez par vrai ou faux, true or false, à ces énoncés. 1. Rama voulait une jupe. 2. Le boubou est pour la belle-mère de Rama. Vous allez maintenant répondre à ces trois questions. 1. Est-ce que Bala a tenu sa promesse? 2. Pour qui sont les boubous selon Bala? 3. Est-ce que Bala a déjà fait le boubou pour Rama? Vous entendrez comment exprimer un choix avec « I'd like to ». Vous entendrez comment se plaindre en utilisant l'expression « n'est-ce pas » en anglais? Nous allons écouter cet entretien plutôt tendu.
Hello, Bala. I want you to show me all your styles. Have you got catalogs? Let me see them.
Right away. My customers are all kings and queens in this shop.
Oh, Bala, stop it. You haven't finished my dress, have you?
I'm at the service of my royal clients. I do things the way they want it.
What is this? Is this a dress or a skirt? It looks like a child's dress.
It's not. It's a young girl's mini dress with beads and a scarf.
How lovely. It's very nice. I'd like you to make me a dress like this with flashing beads and colorful embroidery.
Like a rainbow. Is it going to be for you or for your daughter?
For me. I have no daughter and my son is only 2 years old. I am still young.
Don't get angry now, Rama. I'm gonna make it.
Before I forget, where's the boubou I asked you to make last week?
Rama, you've got so many fabrics here. You always change your mind, don't you?
I told you to make a boubou from the wax fabric I brought last week. You didn't keep your promise, did you?
It will be ready tomorrow. It's for your old grandmother, right?
I told you it was for my mother-in-law. Instead of a mini dress, I'd like a mini skirt. And don't forget my mother-in-law. I'd also like an evening gown for her.
What does your mother-in-law need an evening gown for?
Come on, Bala. She's not that old. She's going to see her husband after 4 years of separation.
All right, then. I'll make it. Anything for love. Say, Rama, your father-in-law needs a boubou as well, doesn't he? I can make one for tomorrow.
Ya Allah. So many things to make. You don't want to be overworked, do you?
Hey, as long as I get paid.
Vous avez entendu dans ce dialogue Bala et Rama. L'énoncé 1 est faux. Rama voulait une jupe. L'énoncé 2 est vrai. Le boubou est pour la belle-mère de Rama. Voilà les réponses aux questions. 1. Est-ce que Bala a tenu sa promesse? Non. 2. Pour qui sont les boubous, selon Bala? Pour les personnes âgées. 3. Est-ce que Bala a déjà fait le boubou pour Rama? Pas encore. Vous avez entendu Rama dire
« I'd like a mini skirt ».
On peut exprimer un choix en utilisant l'expression « I'd like ». Écoutez les autres exemples. I'd like to take the red dress. I'd like to visit the stadium, not the school. I'd like to drink tea. I don't drink coffee. Vous avez aussi entendu Rama et Bala dire
You haven't finished my dress, have you?
You always change your mind, don't you?
Pour dire n'est-ce pas, en anglais, elle a utilisé le tag question ou forme n'est-ce pas. Lorsque la phrase est négative, le tag question est affirmatif. Lorsque la phrase est affirmative, par contre, le tag question est négatif. Voilà des autres exemples. Rama was angry, wasn't she? Bala made the dress, didn't he? Répétez maintenant ce vocabulaire de la couture et de la mode. Modèle, styles. Jupe, skirt. Foulard, scarf. Robe, dress or gown. Perles, beads. Broderie, embroidery. Vous avez entendu dans ce dialogue Bala et Rama exprimer un choix avec I'd like to. Vous avez aussi entendu comment dire n'est-ce pas en anglais et entendu des mots relatifs aux vêtements. On se donne rendez-vous chez Bala le tailleur. Pour plus de renseignements au sujet des cours d'anglais, Learning English, allez au site internet suivant à americanenglish.state.gov.
Ici Michel Joseph. Hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait! Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h temps universel sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com et en ondes courtes le samedi et le dimanche à 20h temps universel. Ne ratez pas English USA.
Aujourd'hui, Martin Lerner fait une interview avec un professeur d'histoire. Today, Martin Lerner is interviewing a history professor. Il lui pose des questions sur la guerre civile américaine. He's asking him questions on the American Civil War. Tous les deux se trouvent dans un champ de bataille. They are in a battlefield. Au cours de cette leçon, vous apprendrez à comparer des événements différents. Dans le présent, dans le passé et dans une même époque. English USA est diffusé en direct de Washington au micro Michel Joseph. Vous allez apprendre à comparer des événements qui se sont déroulés dans le passé. Martin Lerner parle avec un professeur d'histoire américaine, a professor of American history. Au sujet de la guerre civile. About the Civil War. Il dit A group says the reason was slavery. Un groupe de gens disent que la raison de cette guerre était l'esclavage. A group says the reason was slavery. Some say it was economics. Certains disent que c'était à cause de raisons économiques. Some say it was economics. Lors de la guerre civile américaine, on appelait les habitants du Nord the Northerners et ceux du Sud the Confederates. Écoutons maintenant la conversation entre Martin et le professeur.
I wanted you to see the battlefield.
I see what you mean. It's just open area. It was fields.
There were farms here and a few houses.
Where did the battles take place?
Everywhere you can see. Soldiers from the north were on that hill. Soldiers from the south were over there, somewhere in front of those woods.
In fact, where those men are right now.
Yes, those men who are firing guns are acting out the early part of the battle. They are pretending to be soldiers during the Civil War.
Professor Atkins, why did the war begin?
That's a very difficult question. People seldom agree on the reasons for a war. Historians are still arguing about the reasons for the Civil War.
I suppose there are usually many reasons.
Yes. One group says the reason was slavery. Another group says it was politics. And another group says it was economics.
That's quite a few reasons.
We look at those reasons differently, too. At the time of the war, people saw them one way. Now we see them another way.
Let's talk about the people. I'm always interested in people. Tell me about the people first.
We know quite a lot about the soldiers. There were so many.
How many?
There were about 4 million soldiers.
From both sides, the North and the South?
Yes. But remember, they were all Americans.
Of course. That seems like a lot.
It was. More than 600,000 soldiers died in the war. In the Civil War, the fighting usually took place in open areas, like this.
Explain that, please.
The battles were often on farms. The soldiers were on hills and in valleys. They didn't fight in the cities.
In modern wars, they fight everywhere.
Pour comparer deux événements, on les place dans une période déterminée. Lorsqu'on parle, par exemple, de Civil War, et on dit de la guerre civile, et on dit More than 600,000 soldiers died. Plus de 600 000 soldats sont morts. On peut aussi parler d'une autre guerre et du nombre de soldats tués par rapport à celle-ci. Par exemple, in the Civil War, more than 600,000 soldiers died. In the First World War, dans la Première Guerre mondiale, un tel autre nombre sont morts. Écoutez les exemples qui suivent.
In the Civil War, more than 600,000 soldiers died. More recent wars have been worse for civilians. In the Civil War, the fighting usually took place in open areas. In modern wars, they fight everywhere.
Répondez aux questions de Martin et commencez vos réponses en mentionnant une période déterminée. Il vous demandera, par exemple, Where were you living 1 year ago? Où viviez-vous il y a un an?
More than 600,000 died in the Civil War.
About 116,000 died in World War I.
Most of the battles were in Europe.
There were none in the U.S.
Essayez de répondre aux questions de Martin, mais écoutez d'abord l'exemple qui vous est donné. L'exemple. Martin dit quelque chose et le professeur répond aussi en disant quelque chose d'autre. Toujours en parlant dans le passé. Donc c'est une comparaison. 45 people lived in this building. 45 personnes vivaient dans ce bâtiment. Le professeur dit lui aussi 15 people lived in that building. Une quinzaine de personnes vivaient dans ce bâtiment. Maintenant, à vous d'essayer.
45 people lived in this building.
15 people lived in that building.
On Monday, I go to work.
On Monday, I go to work. Vous pouviez dire, On Friday, I go to work.
I lived in Chicago.
Et vous pouvez répondre, I lived in Kinshasa.
On Friday, we went to town.
Et vous pouvez dire, On Saturday, we went to town. On entend souvent dire que tout change. Vos parents, par exemple, vos grands-parents, décrivent leur vie, leur enfance, comme s'ils étaient un autre monde. Et ils ont raison, la vie change rapidement. Donc, au lieu de faire la comparaison d'une guerre, pensez plutôt à votre vie en la comparant à celle de vos parents ou à celle de vos grands-parents. Comparez les changements que vous observez. In the meantime, entre-temps, have a great practice.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h30. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique. Hello and welcome to Anglais Télé. Bienvenue à Anglais Télé. I have some guests today with me. Can you introduce yourself?
Hi, my name is Yubin Kim, and I'm from South Korea, and I'm here to intern in Voice of America Korean Service Team.
Wonderful, thank you. And we have my fellow colleague.
That's me, Roger Muntu, and it's a pleasure to be here with Michelle, and I'm great to lay again today.
Thank you, I've missed you.
I miss you too.
And who are you, my dear?
Hello everybody, and I'm Heva Takenaru.
Wonderful. So we have a full table here.
That's right.
And I think we have a lot of guests also on the other side of the world. And today we're going to talk about the expression to have. To have. En français, avoir. Le verbe avoir. To have. Which is one of the most important idiomatic expressions in English, along with to be. Mm-hmm. Would you agree with that?
I totally agree. I totally agree, Michelle. I think you're right. Our students have to understand that to have and to be are extremely, extremely, and I insist, important in the English language. But today, as Michelle said, we are focusing, I guess, first on to have.
What would we be without to have? I don't think we'd be anything.
Like, I mean, we can't imagine what we'll be without to have.
So right. Maybe we should start by conjugating the verb to have. Why don't we start with you?
Present?
Yes, present tense.
I have, you have, he has, or she has, we have, you have, and they have.
Okay. Now, to have, there's a more familiar way of saying to have. It goes very quickly by in the ear. Do you have an idea, Yubin?
To using have, to have?
Yes, but there's a very quick, familiar way of saying the same thing as I have. Instead, you say...
So do you know another way, Yubin?
Mm-hmm.
What Michelle is trying to see if you know of a different way mm-hmm. of saying I have, right, Michelle? Without using have.
Right, in a familiar way.
In a familiar way. Something that we use a lot in America, in English, American English.
I get, to get.
To get. Let's keep a piece of the to get.
Mm-hmm. Yeah.
Let's speak. Okay, so let's say, hey, I have a lot on my mind today.
The verb that she used mm-hmm. was correct. That's very good. Mm-hmm. To get is correct, and that's what Michelle's trying to say. But we say, I've got.
Yes, I've got.
Mm-hmm. I've got.
It's a strange
I've
thing.
Got. So I've got to put a contraction.
Yes.
It is a contraction of, like Michelle say, of.
I've.
Yes. It's I have.
I have.
Got. So that you say, I've got.
I've got.
I've right. got.
I've got. And it's kind of repetitive because got and have, it means the
mm-hmm.
same thing.
Mm-hmm. Mm-hmm.
But it's kind of like putting a stamp
mm-hmm.
on it. I've got. I have. You can say the same thing. So do you want to try that conjugation again? But this time with I've got.
Mm-hmm.
Do you want to try it?
So now you're mm-hmm. still going to use it in present because you did conjugate the verb to have in presence, like Michelle asked you. Now you have to conjugate to have got.
Okay. I've got. You have got. He has good.
No, that was good.
Good.
That was good.
Good.
He's got. She's got.
We have got. You have got. They've got.
Yeah.
Excellent.
That was good.
Okay, so how we.